Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un peintre et d'un musicien. Alors, l'hôtel central que vous voyez, qui a été installé en 1984, comporte 8 panneaux. Alors, 6 d'entre eux représentent des personnalités liées à Notre-Dame des Victoires. Donc, de l'autre côté, le père Desgenettes et le père Liberman, Anne-Marie Javoué, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Hermann Cohen et Georges Desvallières, Emmanuel d'Alzon et Saint-Jean Bosco, Théodore et Alphonse Ratisbonne. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le peintre et le musicien. Alors je vais commencer par le peintre. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Alors il s'appelle Georges Desvallières. Il est né à Paris en 1861 et il est élevé dans le sentiment religieux. Georges Desvallières est le petit-fils d'Ernest Legouvet, écrivain, dramaturge, poète et membre de l'Académie française. Celui-ci confie son éducation artistique au peintre Élie Delaunay, qui réalisa entre autres des peintures à l'Opéra Garnier, l'Hôtel de Ville de Paris, le Palais Royal et la nef du Panthéon. Alors, quelques années plus tard, Delaunay le présente à Gustave Moreau, un des principaux représentants en peinture du courant symboliste imprégné de mysticisme. Desvallières étudie à l'Académie Julian et à l'École des Beaux-Arts. Sa relation privilégiée avec Gustave Moreau l'oriente vers une inspiration mythologique et religieuse. En 1890, il effectue un voyage en Italie où il approfondit sa connaissance des anciens. En 1903, il fait partie des fondateurs du Salon d'automne. Et cette même année, Desvallières, qui s'était éloigné du catholicisme tout en cherchant Dieu, revient brusquement à la foi. Et c'est au cours d'une suite de croquis pris à Notre-Dame des Victoires, qui était sa paroisse, puisqu'il habitait le deuxième arrondissement, qu'il sent une force surnaturelle le saisir. Il est comme contraint d'aller à l'autel de la Sainte Vierge et d'y réciter la face contre terre, le credo, dont les articles lui paraissaient impossibles à formuler sincèrement quelques instants auparavant. Alors cette conversion va guider son existence et son œuvre. Il peint de plus en plus de sujets religieux, comme le Christ à la colonne en 1810. Il est reçu la même année dans la Société Saint-Jean, qui promeut l'art chrétien, avec comme parrain Hippolyte Flandrin et Maurice Denis. En 1814, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, il a déjà 55 ans. Mais ça ne l'empêche pas de s'engager comme chef de bataillon dans les Vosges. Malheureusement, en mars 1915, son fils Daniel, âgé de 17 ans, meurt au combat à quelques kilomètres seulement de son père. Cet événement le marque profondément et il sublime cette épreuve grâce à sa foi. Il centre ses œuvres après la guerre autour du thème « Le sacrifice du poilu » qu'il met en parallèle avec le sacrifice du Christ. Et son œuvre « Le drapeau du Sacré-Cœur » dans l'église de Notre-Dame de Verneuil-sur-Arve, où il voit à travers les détresses humaines qu'il observe le Christ incarné, partageant les souffrances de l'humanité. En 1919, il fonde avec Maurice Denis les ateliers d'art sacré qui ont pour but de restaurer l'art chrétien, ambitionnant de fonctionner sur le modèle des corporations du Moyen-Âge. Le 11 avril 1926, il fait profession dans le tiers-ordre dominicain, tandis que sa fille Sabine entre au couvent des Clarisses de Mazamet. Alors, le couvent des Clarisses de Mazamet, j'ai appris ça, est réputé pour sa fabrication précieuse de broderies, de chasubles, de mitres, d'étoles, et Sabine Desvallières excellait justement dans l'art de la broderie. En 1929, il succède à Georges Rouault, démissionnaire du poste de conservateur du musée Gustave Moreau. En 1930, il est élu membre de la section peinture de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. En 1933, il est nommé président de l'association Fra Angelico, qui aide les artistes. En 1934, il signe le manifeste de Jacques Maritain, qui était un penseur chrétien, pour le bien commun, qui prône un christianisme social. En 1936, il est élu président du Salon d'automne. En 1938, il prend position en faveur des nouveaux vitraux de Notre-Dame de Paris. En 1943, il devient président de la Société Saint-Jean et parallèlement, il s'attaque à divers programmes décoratifs publics ou privés et à des œuvres liées à la Grande Guerre, entre autres les vitraux de l'ossuaire de Douaumont, l'église de Pawtucket aux États-Unis, etc., etc. Et il est aussi l'illustrateur de la princesse lointaine d'Edmond Rostand et de Rolla d'Alfred de Musset. Alors, parmi les œuvres plus connues, il y a la Nativité, la Résurrection dans la cathédrale d'Arras, le chemin de croix de l'église du Saint-Esprit à Paris, la chapelle Saint-Yves et l'église de Wittenheim en Allemagne, le Petit Palais, etc. Alors, dans les œuvres plus privées, il y a le cloître du couvent des Dominicains à Paris, rue Saint-Honoré, la chapelle du château de Saint-Privat, qui appartenait à son ami Jacques Rouchet, qui fut un grand mécène et qui a dirigé l'Opéra de Paris pendant plus de 30 ans. Et après une vie bien remplie, Georges Desvallières s'éteint le 5 octobre 1950, et comme il habitait le quartier, ses obsèques ont eu lieu ici, à Notre-Dame-des-Victoires. Maintenant, je vais en arriver aux musiciens. Alors, le musicien, il s'appelait Hermann Cohen. Il était né à Hambourg en 1820 dans une famille juive. Alors, il commence à étudier le piano à l'âge de 4 ans. Et oui, quand on veut, dans le domaine artistique, quand on veut avancer très loin, il faut commencer très tôt. Et il donne ses premiers concerts à 7 ans. Alors, sa mère, voulant justement que son fils progresse, elle part s'installer à Paris avec tous ses enfants. Il y en avait 4. Mais malheureusement, Hermann, il était étranger et donc, à cette époque, heureusement, ça a changé depuis, il n'est pas admis au Conservatoire de Paris. Et un grand musicien et conservateur va le prendre comme élève, c'est Franz Liszt. Il le présente à George Sand et à l'abbé Delamenay. Alors, Hermann Cohen va suivre son mentor, Franz Liszt, qui part s'installer à Genève. Mais il rentrait à Paris en 1837, il mène une vie dissolue. Entre autres, il était accro au jeu. Et il accompagne Liszt cependant pour une tournée de concerts en Europe, jusqu'à la fin des années de l'année 1840. Alors l'année 1841 est la rupture entre Cohen et Liszt, parce que Hermann Cohen, il avait des dettes de jeu, et donc tout ça ne plaisait pas au grand compositeur. Cependant, il passe les 5 années suivantes à voyager en Europe. Il revient de nouveau à Paris en 1846 et, dégoûté par sa vie mondaine, il commence par visiter les églises où il reste des heures en prière. Et en mai 1847, tout en jouant de l'orgue pour un service de bénédiction dans l'ancienne église Saint-Valère, il est submergé par une expérience spirituelle douce et puissante et décide de devenir catholique. Alors cette conversion, elle a été mariale en même temps qu'eucharistique. Il écrira plus tard dans ses confessions, « Moi de Marie, moi de ma conversion. Marie, Mère de Jésus, m'a révélé l'Eucharistie. Marie, vous êtes la Mère de l'Eucharistie. » Alors, cet attrait pour la Mère de Jésus, elle va le conduire naturellement à Notre-Dame des Victoires. Et la première fois qu'Hermann s'y rend, l'abbé Desgenettes était en train de prêcher sur la conversion et la vie de saint Augustin. Alors le jeune homme occupait une place vis-à-vis de l'autel dédié à l'évêque d'Hippone. Et cette coïncidence providentielle va contribuer à lui faire prendre au baptême le nom d'Augustin Marie. Le 8 août, alors qu'il assiste à la messe à Ems, en Allemagne, au moment de l'élévation de l'hostie, un flot de larmes le submergea. Spontanément, dit-il, comme par intuition, je me mis à faire en Dieu une confession générale de toutes les fautes commises depuis mon enfance. Je les voyais là, étalées devant moi par milliers, hideuses, repoussantes. Et cependant, je sentis aussitôt un calme inconnu qui vint répandre son baume sur mon âme, que le Dieu de miséricorde me les pardonnerait et qu'il aurait pitié de ma sincère contrition, de ma douleur amère. Oui, je sentis qu'il me faisait grâce et qu'il acceptait en expiation ma ferme résolution de l'aimer par-dessus tout. En sortant de cette même église d'Ems, j'étais déjà chrétien par le cœur. Alors, peu de temps après, Hermann est présenté au père Théodore à Ratisbonne, qui le confie au père Legrand. Et ce dernier le forme dans la foi catholique. Il est baptisé le 28 août 1847 dans la chapelle de Notre-Dame de Sion en présence de l'autre frère Ratisbonne, Alphonse, et de nombreux catholiques d'origine juive. Il est confirmé le 3 décembre 1847 par Monseigneur Affre, l'archevêque de Paris. Alors l'année 1848 marque une étape majeure dans la vie du jeune homme. Attiré par la vie monastique, il tâtonne un peu, alors il prend contact avec les bénédictins solennes et puis se tourne vers le père Lacordaire qui était en train de rétablir l'ordre dominicain en France. Mais Lacordaire lui conseille plutôt de choisir un monastère où il pourra pratiquer une vie érémitique. Alors, pour finir, il choisit l'ordre du Carmel. Mais le fait d'être un converti récent présentait un obstacle majeur à son admission. Il dut faire une visite personnelle à Rome pour obtenir une dispense papale, que, bien entendu, il obtint. Alors l'autre événement, c'est la fondation de l'adoration nocturne à Notre-Dame des Victoires. Ça s'est passé le 6 décembre 1848 et il y a un immense ex-voto dans la chapelle Saint-Augustin. Quand vous êtes face à l'autel, l'ex-voto est à gauche. Alors ça s'est passé, donc j'ai dit le 6 décembre 1848, donc un des protagonistes, donc c'est Hermann Cohen et l'abbé de la Bouillerie, qui était alors vicaire général du diocèse de Paris. Pourquoi ? Parce que Hermann était tout autant attiré par la célébration du sacrifice eucharistique que par l'adoration du Très-Saint Sacrement exposé ou caché dans le tabernacle. Assidu à la messe, il passait des heures devant le Saint-Sacrement exposé. Et c'est ainsi qu'un soir, plongé dans l'adoration dans la chapelle des Carmélites de la rue d'Enfer à Paris, il fut prié par la sœur Tourière de se retirer, alors que les femmes demeuraient là. Il s'écria vivement : « On vient de me faire sortir d'une chapelle où des femmes sont devant le Saint-Sacrement toute la nuit. » Et dès le lendemain, Hermann trouva quelques hommes prêts comme lui à suivre l'exemple de ses adoratrices. Et donc, tout naturellement, il vient à Notre-Dame des Victoires, il se tourne vers l'abbé des Genettes et celui-ci lui fait rencontrer un homme dont j'avais parlé dans une de mes chroniques. Et cet homme va devenir vraiment l'apôtre extraordinaire de l'adoration nocturne une fois que Hermann serait devenu carme. C'était Monsieur Cyril Dumont de Banque qui était lui aussi récemment revenu à Dieu. Et leurs actives démarches réunirent en peu de temps 23 hommes de bonne volonté. Donc, sur proposition bien sûr du cher père de Genette, Notre-Dame des Victoires est choisie pour l'inauguration de l'adoration nocturne. La première nuit d'adoration fut décidée à la nouvelle que le pape Pie IX venait de quitter Rome en révolution pour se réfugier à Gaët. Donc l'adoration nocturne est, si je puis dire, lancée. Et quelques mois après, Hermann entre au Carmel du Broussé qui se trouve en Gironde, où il reçoit l'habit religieux le 6 octobre 1849 sous le nom d'Augustin Marie du Très-Saint Sacrement. Il fait sa profession religieuse le 7 octobre 1850 et il est ordonné prêtre le 19 avril 1851. Alors le père Augustin Marie, il assurait à une vie contemplative dans la solitude, mais par obéissance, il est devenu un pigeon voyageur en parcourant la France et l'Europe pour prêcher l'amour du Christ dans l'Eucharistie et fonder plusieurs couvents de carmes. Il prêche à des milliers de personnes à Genève, Bordeaux, Lyon, Paris, à Paris dans les églises Saint-Sulpice et Sainte-Clotilde. Et le 12 mars 1864, il célèbre la messe à Notre-Dame des Victoires et remercie Marie de sa protection accordée à son Carmel de Londres qu'il avait fondé le 15 octobre 1862. Alors, entre-temps, il s'était réconcilié avec Franz Liszt. Ils avaient même passé ensemble un petit séjour de 3 semaines à Rome. Je pense qu'ils ont dû faire pas mal de musique. Alors, Franz Liszt est très, très touché de la conversion d'Hermann et de son entrée au Carmel. Et il disait, Hermann, dont la vie allait désormais devenir rien d'autre qu'une adoration perpétuelle, brûlante et extatique du pain des anges. Alors, le père Augustin Marie était également l'ami du curé d'Ars et du pape Pie IX. Et il protège Bernadette Soubirous en un temps où celle-ci devait faire face aux attaques des sceptiques. Et il trouve quand même le temps de composer de nombreux cantiques. Et on lui demande souvent d'improviser à l'orgue avant ses prédications. Et avant de célébrer l'Eucharistie, il accompagne quelques cantiques. À la demande du cardinal Wiesmann, donc je l'ai dit, qui était archevêque de Westminster, le pape Pie IX l'envoie à Londres comme un nouveau moine augustin pour y restaurer l'ordre du Carmel. Et il fonde en même temps l'adoration nocturne en un temps où les catholiques anglais ne pouvaient et n'osaient encore manifester leur foi. Il continue de veiller sur l'œuvre de l'adoration nocturne qui malheureusement fut rapidement en péril. Et il écrit des lettres brûlantes donc à son successeur, Monsieur de Broc. Mon cher frère, en Jésus, hostie, que l'amour du crucifié nous brûle, nous consume et nous transforme en lui. Je vous remercie des nouvelles que vous voulez bien me donner sur l'adoration de Paris. N'épargnez aucun effort pour soutenir sa vie et pour en augmenter le cercle d'action. J'ai lieu de croire que d'ici à quelques années, elle doit prendre un grand développement par toute la France. Et nous sommes déjà occupés à réunir tous ces éléments répandus dans les diverses villes en un seul réseau afin d'offrir au cher Jésus, au nom de toute la France, une adoration nocturne continuelle. Et en 1869, il écrit toujours à Monsieur de Banc, « Demain, il y aura 21 années que nous commençâmes l'adoration nocturne. Cet anniversaire me fait toujours une bien suave impression de joie et de reconnaissance. Ici, au désert, nous sommes chaque nuit, de minuit à 2 heures, au pied du tabernacle. Vous pensez bien que dans ces heures délicieuses, je m'unis souvent à vous et à vos associés. » Et dans cette même lettre, le père suggère à Monsieur de Banc de profiter de la réunion des évêques du monde entier, réunis à Rome à l'occasion du Concile Vatican I, pour leur faire connaître l'œuvre de l'adoration nocturne afin qu'elle se répande dans le monde entier. Alors, fidèle au plan que lui avait tracé donc le père Augustin Marie, Monsieur de Banc parvint, pendant les 20 dernières années de sa vie, à faire pénétrer l'adoration nocturne dans beaucoup de pays du monde, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Canada, États-Unis, Mexique, Brésil et diverses républiques du Sud. Alors, j'attire votre attention sur l'importance du rôle qu'ont eu les premières adorations nocturnes de Notre-Dame des Victoires dans la réalisation du projet de vœux national au Sacré-Cœur de Jésus, d'où est née la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Monsieur Le Gentil, qui était initiateur du vœu, écrivait à Monsieur de Banc, président de l'œuvre de l'adoration, donc successeur du père Augustin Marie, il lui écrit pour lui demander de communiquer cette idée, surtout à l'œuvre de l'adoration nocturne. Tout ceci se passait le 21 février 1871. Un mois après la mort du père Augustin Marie. Et le 6 décembre 1878, 30 ans après sa naissance, les membres de l'adoration nocturne inaugurèrent l'adoration eucharistique sur la colline de Montmartre. et il est reconnu que le père Augustin Marie joua un rôle providentiel et capital dans la réalisation du vœu national. Le 28 février 1881 est fondée l'adoration perpétuelle, et ce fut l'œuvre de l'adoration nocturne qui fournit les premiers adorateurs. Alors je reviens sur le père Augustin Marie. En 1867, il demande à prendre sa retraite. Il avait des ennuis de santé et il se rend à l'ermitage qu'il a fondé à Tarastex, tout près de Lourdes. Mais il perdait la vue car il était atteint d'un glaucome. Il se rend au sanctuaire de Lourdes et il baigne ses yeux dans la source et aussitôt il recouvre instantanément la vue, car il avait refusé auparavant de se faire opérer. Donc il revient au Carmel du Brousset parce qu'il est nommé maître des novices. Mais la guerre de 1870 le fait partir à Genève. Il n'était pas français, il avait toujours la nationalité allemande. Mais lorsqu'il apprend que de nombreux prisonniers français sont détenus à Spandau, il se porte volontaire pour s'occuper d'eux. Comme aumônier de prison, il célèbre la messe, confesse. Mais malheureusement pour lui, il commet une imprudence en délivrant les derniers sacrements de ses mains à des prisonniers atteints de la variole. Et 2 mois plus tard, les premiers symptômes apparaissent. Il meurt le 20 janvier 1871 pendant la prière du Salve Regina. Alors, il a d'abord été enterré à Berlin, puis ses restes furent transportés au Carmel du Brousset, où ils sont toujours à l'entrée de l'église du couvent. Le 16 janvier 2016, son procès en béatification est ouvert à Bordeaux. Et le 20 janvier 1971, une messe a été célébrée à Notre-Dame des Victoires pour le centenaire de sa mort. Et cette messe était présidée par son arrière-petit-neveu, moine bénédictin. Voilà. Alors, pour finir, on peut dire que la musique, la prédication, l'adoration du Saint-Sacrement furent les 3 piliers du père Augustin Marie. Et j'espère que son procès en béatification aboutira un jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bon après-midi.